les braves gens, au physique transparent la moque.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Les Pieds dans la Lune, épisode 2, le Bissab façonnier coule à flot, les nounours guimauves sont sur table, les téléphones portables remisés, Iman, Sophie, Sonia et Amy sont en place, notre invité, le président Richard Patry, attend son heure pour nous parler de cinéma et du Festival de Cannes, nous sommes ici et maintenant, les pieds dans la lune, mais la tête bien sur terre, allez c'est parti. Les pieds dans la lune, un invité sur terre, le coup de cœur culture de la HDR.
Yes.
Oh, there's this passage I got memorized. Sort of fits this occasion. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness. For he is truly his brother's keeper and the finder of lost children.
Ézéchiel, chapitre 25, verset 17. Le chemin de l'homme juste est semé d'iniquité par les égoïstes et la tyrannie des méchants. Vous avez reconnu la voix de Samuel Lee Jackson dans Pulp Fiction, citant un vers supposé de la Bible. Avant d'abattre un homme à bout portant de plusieurs balles dans la scène de l'appartement, ce verset tel quel n'existe pas dans la Bible, Tarantino s'est inspiré d'une version dans le film japonais Karate Kiba en 1973. Pourquoi on vous en parle? Parce qu'aujourd'hui, on va évoquer la puissance du cinéma. Il y a 10 jours, le secrétaire à la défense du gouvernement Trump a repris mot pour mot cette réplique supposée biblique de de Pulp Fiction en prononçant une prière, l'air grave, lors d'une messe au Pentagone. Est-ce que le 7e art peut servir l'art de la guerre ? En tout cas, la puissance du cinéma peut répondre à des questions plus positives. Et c'est le cas avec le film français « C'est quoi l'amour ?» tourné en grande partie à Rouen. Nous étions à l'avant-première. C'est Iman qui nous raconte.
Le 4 avril dernier, nous sommes partis découvrir le film « C'est quoi l'amour ?» réalisé par Fabien Gorjard et produit par Marie Dubas. Un film que la team a beaucoup aimé. C'était touchant, drôle, poignant. Et surtout, on y voyait Rouen comme on voit peu notre ville dans les longs métrages. Et justement, on est parti à la rencontre de Fabien Gorjard pour qu'il réponde à quelques-unes de nos questions.
C'est donc votre 50e avant-première aujourd'hui, ce soir à Rouen. Comment vous vous sentez ? Est-ce que vous êtes un peu fatigué ?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que oui, parce que ça fait 50 avant-premières que je fais depuis à peu près le mois de janvier. Mais non, parce que celle de Rouen a une particularité pour moi, c'est la ville où on a tourné le film, c'est la ville où je suis né. Donc c'est peut-être l'avant-première que j'attends le plus.
Vous avez l'habitude de faire des films autour du thème de la famille. On pense notamment à celui que vous avez sorti en 2021. Là, cette fois-ci, c'est plus autour d'un couple, mais il y a toujours cet aspect de famille. Pourquoi c'était important pour vous de remettre la lumière sur ce sujet-là ?
Parce que j'ai l'impression que je n'avais pas encore fait complètement le tour de la question. Et là, en fait, le film triche un peu parce que c'est pas justement, on fait croire que ça commence par un couple et ça montre que quand il y a un couple qui naît, c'est toute une famille derrière qui existe aussi. Voilà. Et donc là, c'est le film montre, fait croire qu'on est dans une sorte de comédie de remariage. Et puis finalement, ça va s'étendre à tous les personnages qui sont concernés par cette histoire, de cet amour qui a eu lieu il y a 20 ans. Quoi.
Si vous deviez définir le film qu'on va voir ce soir en trois mots, ce serait lesquels ?
Miroir, parce que je pense que le film, ça je l'entends puisque c'est ma 50e avant-première, donc je commence à avoir des retours, marche comme un espèce de jeu de miroir pour les gens. C'est pour ça qu'on a marqué sur l'affiche maintenant, cette famille, c'est la vôtre. Évidemment, amour, c'en est un deuxième, mais c'est plusieurs versions de l'amour. Et chaque personnage est un peu une réponse à la question. Et le troisième, je vais mettre personnel, parce qu'au fond, ce film-là, c'est peut-être mon film le plus... Alors que celui d'avant parlait d'une histoire très personnelle, qui m'était arrivée même quand j'étais enfant. Celui-là, mais personnel par rapport à la tonalité du film, par rapport à ce que le film raconte de manière plus globale. Je trouve que c'est mon film le plus personnel.
Rouen, c'est donc votre ville de naissance, vous l'avez dit, vous êtes rouennais. Et dans ce film, on retrouve plusieurs endroits emblématiques, je pense notamment au Palais de Justice. Comment est venue la sélection des lieux ?
Bah là, c'était la joie de quand on a eu l'aide de la région Normandie, que du coup, il fallait trouver dans quelle ville on allait tourner. J'ai pensé tout de suite à Rouen, parce qu'en fait, Rouen, je suis né, mais je ne suis que né à Rouen. Mes parents sont partis quand j'avais un an, et donc j'ai redécouvert cette ville qui est sur ma carte d'identité depuis ma naissance. Pour le film. Et puis donc après, on fait des repérages. Et là, chaque chose que j'avais besoin pour le film, je le trouvais encore mieux que ce que j'avais imaginé. Ça va des Docks 76, le palais de justice dans lequel on peut faire plusieurs décors avec cette teinte, cette particularité de ce monde ecclésiastique quand même qui pèse sur le film. Comme ça, donc Rouen, c'est une sorte de Vatican. Enfin, il y a tellement d'églises, le rapport à la religion est tellement fort. Et puis comme le film, en plus, va jusqu'à Rome, d'aller de Rouen à Rome, je trouvais que c'est très cohérent. Donc effectivement, l'abbatiale de Saint-Ouen dans lequel on tourne aussi, l'église Jeanne d'Arc dans laquelle on tourne, tous ces lieux-là ont une splendeur. Même le pont, je ne sais plus comment il s'appelle, le pont qui est en face des Decks 76, le pont Flaubert, était parfait. Moi, j'avais l'impression de filmer le pont San Francisco quand j'ai la voiture qui... Voilà. Et tout ça, ça m'inspirait beaucoup et je suis très heureux d'avoir pu tourner ici.
On s'est aussi fait la réflexion que beaucoup se font. C'est quoi la réelle différence entre un réalisateur et un producteur ? C'est pourquoi on a posé la question directement à Marie Dubas.
Ma société s'appelle Deuxième Ligne et c'est, ça fait très longtemps que je travaille avec Fabien Gorjard. Ça fait 18 ans qu'on fait des films ensemble. Ça, c'est son troisième long métrage. C'est quoi l'amour ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'une productrice ? Disons que je suis la personne qui est aux côtés du réalisateur ou de la réalisatrice quand il conçoit les premières images ou les premières idées de son film. Mon travail, c'est de l'aider à accomplir son envie de film, ça veut dire l'aider à aller au meilleur scénario possible. Et puis une fois que j'ai vraiment bien compris ce qu'il a en tête, c'est à moi de comprendre en termes d'argent, de chiffres, ce dont il a besoin pour exécuter sa vision. Donc en gros, moi j'aime bien dire que mon travail, c'est de lui accorder le plus de liberté créative possible, ce qui n'est faisable que lorsque j'ai vraiment bien compris ce qu'il a en tête.
Et comment est-ce que vous allez chercher l'argent justement ? Est-ce que c'est compliqué ou pas ?
Ça dépend. Là, c'était le troisième film de Fabien et son deuxième film qui s'intitule La vraie famille. C'est un film qui a été remarqué par les gens dont le métier c'est de financer des films. Moi je suis allée chercher de l'argent chez Canal+, qui est un partenaire très fidèle du cinéma français, mais également chez France Télévisions. Alors il faut savoir que ces deux entités ont l'obligation d'investir dans des films. C'est une obligation, c'est cadré par la loi, c'est l'État un jour qui a décidé qu'ils en avaient l'obligation. Donc ils sont quand même obligés de dépenser de l'argent, mais ils ont le choix des films sur lesquels ils peuvent décider d'investir. Et puis je suis allée chercher l'argent de la région Normandie. Alors moi, ma structure de production, elle est localisée dans le département de l'Eure. Donc Normandie Images, qui est l'antenne régionale qui se charge de financer le cinéma local, on se connaît bien, parce que ça fait 12 ans que j'ai ma structure ici, je les sollicite souvent. Et là, c'était un film dont une partie du tournage se déroulait à Rouen, donc il y avait un intérêt esthétique, artistique, local aussi pour eux à soutenir le film.
Après la projection, on a demandé aux spectateurs ce qu'ils avaient pensé du film à chaud, et voilà ce qu'on en a retenu.
Alors moi, j'avais pas vu la bande-annonce avant, donc je savais juste dans les grandes lignes l'histoire, et je trouvais que c'était très touchant sur la notion de la famille aujourd'hui, donc les relations qu'il y a, qu'il peut y avoir des relations forcément houleuses dans les familles, mais aussi apaisées, et que la famille, c'est aussi celle qu'on choisit et qu'on construit.
Et qu'est-ce que ça vous a fait de voir un peu des images de Rouen ?
Ah ben, je suis très fière de voir ma ville montrée de cette façon-là. Et pour être rouennaise, ben, on se reconnaît dans des endroits où on n'a pas forcément aussi la chance d'aller, dans l'église Jeanne d'Arc ou même dans le palais de justice. Donc c'est chouette, on est fiers.
Quand je pose quand même la question, qu'est-ce que ça a fait de jouer, même faire une petite apparition dans un film ?
C'était une expérience incroyable, inédite effectivement, puisque c'est vraiment le pur hasard qui a fait que. Moi je suis responsable bâtiment du palais de justice et c'est en rencontrant le réalisateur qui m'a dit « il faut que tu apparaisses dedans » et donc rôle de composition, je joue une bonne sœur dans mon propre lieu de travail quotidien. Donc c'était assez... une bonne sœur qui ne parle pas du coup, mais qui fait un peu comme office de greffier. Donc c'était une fierté et une expérience vraiment à vivre.
Voilà le film « C'est quoi l'amour ?» à voir absolument, tourné en grande partie à Rouen, sortie nationale le 6 mai et dans toutes les salles, mais surtout à l'Omnia évidemment.
Le coup de cœur culture de la team HDR.
Aujourd'hui avec Benoît, on vous parle du dernier livre de Philippe Torreton, comédien et écrivain né à Rouen. Philippe Torreton a suivi les maraudes du SAMU social dans Paris avec les infirmiers, les travailleurs sociaux et les personnes qui vivent dans la rue. Il a restitué ses échanges dans son livre intitulé « Veiller » paru en février dernier chez Calman Lévy. C'est Benoît qui nous en parle aujourd'hui.
En Pays de France, on aime à pratiquer des circonvolutions pour faire oublier nos coupables renoncements et silences. Vous savez, des trucs du genre « il faut savoir séparer le viticulteur du violeur, le chanteur au désir trop noir du tueur de femmes, l'artiste de l'homme même s'il est un abject goujat ». Parfois, heureusement, dans le monde, une voix se fait propos. Philippe Torreton, voyez-vous, c'est un peu ce genre de voix. Un jour, il signe dans Libération une tribune intitulée « Alors Gérard, t'as les boules ?» pour dire qu'il ne faudrait pas trop séparer l'acteur qui s'enrichit avec le cinéma français du Depardieu qui ne paye pas ses impôts en France. Et boum, direct, sans préavis, il se retrouve, comme il dit lui-même, licencié du cinéma français. Lui, l'acteur césarisé en 1997 pour Capitaine Conan de Tavernier, moliarisé en 2014 pour Cyrano de Bergerac. Pour autant, il ne perd pas le goût de l'écriture, engagé. Cet ouvrage à son actif, Le formidable mémé, un livre tout en émotion qui vous fait verser des belles larmes, Jacques à la guerre pour rappeler qu'il y a ceux qui meurent et victimes de la guerre et ceux qui s'enrichissent avec. Un cœur outragé, histoire d'un acteur de Pont-Audemer, prometteur et remisé, qui connaît l'histoire de Romain Gary et d'Émile Ajar et qui va s'en inspirer pour continuer d'exister dans son art. Son actualité du moment est un livre intitulé Veiller chez Calman Lévy, collection L'Engagée, fruit littéraire de nuit passée avec le SAMU social dans les rues de Paris. Pas de jugement moral et culpabilisateur chez Philippe Torreton, pas d'orgueil mal placé de transfuge de classe, juste une conscience politique exacerbée face aux politiques atones et aphones, un cri poétique, une intranquillité à faire partager. Se promener dans les rues de Paris est un bonheur quand on a un toit et une situation. Y vivre, migrant de l'extérieur, migrant de l'intérieur, est un danger de tous les instants, une violence et une peur permanente. La promesse d'une disparition, celle d'être effacé sous les yeux de nos semblables. Veiller, c'est veiller sur eux, sur nous, sur notre capacité à vivre en société. Mustapha, c'est ton vrai nom, le seul de ce récit. Comme ça, au moins, t'es quelque part, pour de vrai. Je ne t'ai servi à rien, Mustapha. Je t'ai regardé mourir. J'aurais eu au moins cette politesse, là, te regarder mourir. Elle était où, votre politesse, madame la femme du milliardaire, quand vous avez déclaré à la radio que vivre dans la rue est un choix ? Vivre dans un palace est un choix, faire du ski à Dubaï est un choix, mais on ne choisit pas d'aller mourir dans la rue. Jamais.
Oui, c'était Veillée de Philippe Torreton. Vous ne pouvez pas encore l'emprunter sur le réseau des bibliothèques de Rouen, mais ça ne saurait tarder. Les autres ouvrages de Philippe Torreton sont dispo dans vos bibliothèques préférées. À Rouen, par exemple, son livre hommage très touchant à sa grand-mère maternelle, Mémé, qu'on vous recommande. En attendant, on pourra écouter Philippe Torreton sur son dernier ouvrage pendant le festival Terre de Parole. Sophie Quetteville animera la rencontre avec le comédien et écrivain normand dimanche 24 mai à 11h du matin dans les jardins de l'abbaye Saint-Georges de Beaucherville, 5€ l'entrée. D'ailleurs, au sujet du festival littéraire Terre de Parole qui organise plusieurs rencontres et manifs partout en Seine-Maritime, Imane a interrogé Morgane Stampfer sur les moments à ne pas manquer à Rouen.
Ça va être compliqué de ne citer qu'un temps fort sur l'agglomération de Rouen, puisqu'on a, on va avoir trois événements pendant la semaine qui misent en fait sur une diversité des propositions littéraires et des propositions artistiques. Donc on va autant avoir un concert littéraire au Quartier Libre avec Lisette Lombé et Marc Namour, avec des entrées vraiment musicales, du slam et donc du coup de la musique. On va avoir aussi un événement à l'Historia Jeanne d'Arc et une rencontre entre Timothée de Fombelle et Suzy Morgenstern, qui sont deux auteurs en fait très connus pour la littérature de jeunesse, mais qu'on invite en fait dans le cadre de la sortie de leur premier roman cette année à destination d'un public plus adulte. Et autre temps fort à Rouen, on a un très beau vendredi qui va être entre lecture et poésie, où en fait on organise un marathon de 8 heures, une lecture-performance de 8 heures qui s'appelle le Grand Marathon de l'Autofictif, où en fait un comédien, le comédien Christophe Brault, va pendant 8 heures tenter de rattraper les billets de blog qui ont été écrits par Éric Chevillard sur du coup, le blog de l'Autofictif.
Voilà le festival littéraire Terre de Parole qui aura lieu du 24 au 30 mai partout en Seine-Maritime. Tout le programme est à retrouver sur le site terredeparole.com avec un S à terre et un S à parole. Il est 17h14, nous sommes en direct, les pieds dans la lune sur la radio HDR. Benoît, vous nous parlez maintenant des femmes et de la musique.
Il se dit dans certains salons autorisés que la musique, comme toute chose sérieuse, est une affaire d'homme. Pour preuve, l'absence de compositrice dans l'histoire. Face à pareille niaiserie, mensonge, fadaise, on pourrait citer les noms de Hildegard von Bingen, Elisabeth Jacquet de la Guerre, Clara Schumann, Betsy Jolas, Mel Bonis. On peut aussi renvoyer à l'ouvrage de Guillaume Kominski, compositrice, l'histoire oubliée de la musique, édition Les mots et le reste, pour rappeler l'effort d'invisibilisation et d'empêchement pratiqué encore et toujours par la grande entreprise du patriarcat mondial qui a su empêcher Nina Simone d'être une artiste classique, mais pas d'être une géante du jazz. Ce jazz en France dont les talents féminins sont légion. Marion Rampal et son dernier album Song for Abbé, Anne Passeo, formidable batteuse qui peaufine entre la Nouvelle-Orléans et la France sa démarche artistique singulière avec son album Atlantis qui vient de ressortir agrémenté de plusieurs titres nouveaux, ou encore Erel Besson, trompettiste de talent qui vient de sortir un nouvel album, Blossom, dont nous écouterons un extrait en fin d'émission. Que serait le rock enfin sans les Go-Go's, les Bangles, Texas, Chrissy Hynde, sans ces grandes dames, Kim Gordon, voix des Sonic Youth d'antan, qui signe avec Play Me un nouvel album bien affirmé, et Nina Hagen, inaltérable, qui nous revient avec Highway to Heaven, inspiré par Dieu lui-même. Nina n'a pas besoin d'intermédiaire terrestre, elle est Nina Hagen. Le pop, la pop n'est pas en reste avec Avalon Emerson, ex-programmatrice informatique de la Silicon Valley, DJ reconnue et appréciée des nuits berlinoises. Elle signe sous le nom d'Avalon Emerson and the Charm, son deuxième album qui fleure blond les mélodies des années 80-90, comme celle d'Everything But the Girl, la voix de la chanteuse Tracy Horn a tant ravi mes oreilles. Le premier titre de l'album d'Emerson, Brighton into Chan, s'appelle Eden. Tout comme l'album d'Everything But the Girl, sorti en 86. Chouette coïncidence, on l'écoute tout de suite. Avalon Emerson and the Charm, Eden.
Accueillons un invité exceptionnel, Richard Patry, et nous sommes toujours en direct, les pieds dans la lune sur la radio HDR. Richard Patry, c'est après le jingle.
Les pieds dans la lune, un invité sur Terre. En France, il y a beaucoup de présidents, trop sans doute, mais il n'y en a qu'un seul, le président, c'est Richard Patry. Président directeur général de la société Nord-Ouest Exploitation, Noé Cinéma, président de Normandie Images, président de la Chambre syndicale des cinémas de Normandie, président de la Fédération nationale des cinémas. Vous êtes aujourd'hui à la tête d'un groupe qui est parmi les 10 premiers en France et les 50 premiers en Europe. Richard Patry, bonjour.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Vous n'êtes pas un héritier, donc ma première question, qui ne cache pas mon admiration, comment partons d'Elbeuf en 1987 avec moins d'une bobine en poche pour en arriver où vous en êtes aujourd'hui ?
Alors on est parti un peu avant d'ailleurs 87, hein, puisque en fait moi je suis né d'un papa barbier coiffeur, d'une maman qui travaille en usine et d'un amour pour le cinéma parce que mon papa ferme son salon assez tard le soir parce qu'il y a à Elbeuf il y a une grosse usine, il y a une grosse usine Renault et donc il coiffe les ouvriers qui sortent du quart du soir et donc moi je suis tout seul à la maison, je suis fils unique et j'ai le droit d'aller au cinéma très tôt. Et voilà, c'est comme ça que je vais découvrir mon amour du cinéma. Puis je vais rencontrer des enseignants magnifiques dans un lycée magnifique qui est le lycée André Mauroy où j'ai fait toute ma scolarité. Moi, j'ai tellement aimé ça que j'ai commencé en sixième, j'ai fini en terminale, mais j'ai fait 9 ans. J'ai redoublé 2 fois parce que comme je pouvais avoir du rab à la cantine, j'étais bien vu. Et donc, voilà, dans ce lycée avec plein de profs, on a créé un ciné-club qui a beaucoup fonctionné à l'époque. Il y avait vraiment des ciné-clubs qui marchaient très, très fort dans les lycées. Et voilà, j'ai découvert au cinéma d'Elbeuf, au ciné-théâtre d'Elbeuf, j'ai découvert les Charlots, la Grande Vadrouille, les grands films comiques. Et puis au lycée, j'ai découvert les grands maîtres italiens, les grands maîtres japonais, Truffaut, etc. Donc une culture qui se compose comme ça. Et puis le 14 décembre 1982, je suis invité à l'inauguration du nouveau cinéma d'Elbeuf. L'ancien a été fermé, reconstruit dans un complexe de 3 salles. Et là, le pauvre étudiant que je suis se dit comment va-t-il payer ses entrées pour aller au cinéma. Une salle, déjà tout mon argent de poche y passait. Alors 3, c'est fait signer. Comme je suis invité en tant que président du ciné-club à l'inauguration, je vois les nouveaux patrons et je leur dis écoutez, je vous propose un deal. Je viens travailler pour vous gratuitement le week-end et en échange, je vois tous les films. Tape là. Le lendemain, c'est l'ouverture. 15 décembre 1982, on passe dans la grande salle, la boum numéro 2, et le premier billet qui a été déchiré, eh ben c'est moi qui l'ai déchiré, du premier client. Voilà comment j'ai commencé. 87, je rachète le cinéma, vous l'avez dit Benoît, et puis je crée ce groupe Noé, sans jamais avoir quitté Elbeuf. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions. D'abord, je suis ravi d'être avec vous pour en parler, et il y a beaucoup d'émotions, parce que dimanche, on va fermer ce cinéma. Alors, c'est jamais facile de fermer un cinéma, même si celui-là, on le ferme pour la bonne cause, puisqu'on va le réouvrir. Mais voilà, j'y ai passé toute ma vie dans cette salle. J'y ai vécu énormément d'émotions et voilà.
Alors à propos de cette fermeture, Amy a une petite question à vous poser, puisqu'elle est scolarisée à Elbeuf et qu'elle a entendu parler d'une affaire qui la travaille beaucoup.
Oui, exactement. J'ai vu que dimanche, vous proposez de venir assister à la diffusion d'un film au cinéma Grand Mercure à Elbeuf. et de repartir avec son fauteuil.
Exactement. Ben alors, donc, dimanche à 18h dans la salle numéro 2, je vous parlais de la salle 1 tout à l'heure avec la boum, dans la salle numéro 2, on passait Papy fait de la résistance. Eh bien, dimanche, on propose de repasser Papy fait de la résistance à 18h et à la fin, si vous le voulez, il n'y a absolument bien sûr aucune obligation, eh bien, vous venez avec une clé de 13, vous déboulonnez le fauteuil et vous repartez avec lui chez vous, puisque dans le nouveau cinéma, il y aura des nouveaux fauteuils et que bah, plutôt que de les jeter, autant faire plaisir. Moi, je vous avoue que c'est une opération qui me fait très plaisir parce que, je vous le disais juste avant, il y a beaucoup d'émotions, moi, dans cette fermeture, et que les spectateurs et les spectatrices d'Elbeuf puissent emporter un petit morceau du cinéma avec eux et le mettre chez eux si ça les amuse. Eh bien, voilà. Alors, encore une fois, il n'y a absolument aucune obligation, mais on fait cette opération. Voilà, vous voyez un film et vous repartez avec votre fauteuil.
Oui. Et justement, alors je réembraye sur quelque chose d'assez différent, mais il y a quelques jours, je reviens sur l'actualité, l'Omnia a été récompensée du CinemaCon 2026 de Las Vegas par le Blue Ribbon Award du Box Office Pro. C'est un réel accomplissement. Comment s'est passée la remise du prix ?
Bah écoutez, ça a d'abord été une surprise. Alors bon, Benoît vous l'a dit tout à l'heure, je suis un gros cumulard, donc j'ai plein d'actions dans le cinéma. Et donc tous les ans, je vais à Las Vegas depuis maintenant 30 ans. Las Vegas, c'est le plus grand marché du cinéma au monde, là où toutes les annonces sont faites. Et donc j'ai eu la surprise, effectivement, de voir que nous avons obtenu pour l'Omnia le Blue Ribbon. Alors c'est une distinction très importante hein, qui marque l'excellence dans l'accueil, dans la convivialité, dans la qualité architecturale. C'est vrai qu'on a postulé hein, avec le groupe Noé et toute l'équipe de l'Omnia, mais ce qui m'a le plus fait plaisir, c'est que quand on nous a remis le diplôme, on a bien sûr parlé de l'architecture, hein, la rénovation qui a été faite avec les services de la ville de Rouen, qui a été un gros boulot, mais on a surtout parlé de la place du cinéma dans son environnement, toutes les opérations de médiation qui étaient faites, et ça a beaucoup impressionné le jury. Et à côté du cinéma Rex ou à côté du cinéma Pathé Palace, nous on était le petit cinéma réessai qui recevait ça, et je crois qu'effectivement la dimension complètement territoriale, implantée dans le territoire, a beaucoup joué sur cette distinction. On est très très fiers, surtout que c'est une distinction qui est remise par un jury américain hein, donc voilà, ils sont peut-être jamais venus à Rouen ces gens-là, mais en tous les cas on a su, et bravo à toute l'équipe d'Hervé, de Jean-Marc et toute l'équipe de l'Omnia, parce que c'est leur travail qui a été récompensé.
Alors justement, vous êtes en tant que président,